« Je veux voir, » dit Guillaume, « le dernier manuscrit du volume relié qui réunit un texte arabe, un syrien et une interprétation ou transcription de la Scena Cipriani. Je veux voir cet exemplaire en grec, établi probablement par un arabe ou un espagnol, que tu as trouvé quand, aidé de Paolo de Rimini, tu as obtenu qu'on t'envoya dans ton pays pour recueillir les plus beaux manuscrits des Apocalypses de Léon et de Castille. Un butin qui t'a rendu célèbre et fait estimer ici dans l'abbaye, et t'a permis d'obtenir la place de bibliothécaire, alors qu'elle revenait à Alinardo de 10 ans ton aîné. Je veux voir cet exemplaire grec, écrit sur papier de drap, qui alors était très rare et qu'on fabriquait précisément à Silos, près de Burgos, ta patrie. Je veux voir le livre que tu as dérobé là-bas, après l'avoir lu, car tu ne voulais pas que d'autres le lussent, et que tu as caché ici, le protégeant de façon habile, et que tu n'as pas détruit, parce qu'un homme tel que toi ne détruit pas un livre, mais le garde, et veille à ce que personne ne le touche. Je veux voir le deuxième livre de la poétique d'Aristote, celui que tout le monde croyait perdu ou jamais écrit, et dont tu conserves peut-être l'unique exemplaire. Quel magnifique bibliothécaire tu aurais fait, Guillaume, dit Jorge, d'un ton matiné d'admiration et de regret. Ainsi tu sais vraiment tout. Viens, je crois qu'il y a un tabouret de ton côté de la table. Assieds-toi, voici ta récompense. Guillaume s'assit et posa la lampe que je lui avais passée, éclairant par en dessous le visage de Jorge. Le vieillard prit un volume qu'il avait sur la table et le lui tendit. Je reconnus la reliure. C'était celui que j'avais ouvert à l'hôpital, le prenant pour un manuscrit arabe. « Lis donc, alors, feuillette-le, Guillaume, » dit Jorge. « Tu as gagné. » Guillaume regarda le volume, mais ne le toucha pas. Il tira de sa coule une paire de gants, pas les siens, avec la pointe des doigts découverte, mais ceux que portait Séverin quand nous l'avions trouvé mort. Il ouvrit lentement la reliure usée et fragile. Je m'approchai et me penchai sur son épaule. Jorge, de son ouïe très fine, entendit le léger bruit que je fis. Il dit « Tu es là, toi aussi, mon garçon. Je te le ferai voir à toi aussi. Après. » Guillaume parcourut rapidement les premières pages. « C'est un manuscrit arabe sur les dits de quelques folles, d'après le catalogue, dit-il. De quoi traite-t-il ? Oh, sotte légende infidèle, où l'on juge que les folles ont des mots d'esprit si subtils qu'ils en étonnent même leurs prêtres et enthousiasment leurs califes. » Le second est un manuscrit syriaque. Mais d'après le catalogue, il traduit un libelle égyptien d'alchimie. Pourquoi se trouve-t-il donc dans ce recueil ? C'est un ouvrage égyptien du IIIe siècle de notre ère. Dans la ligne de l'ouvrage qui suit, mais moins dangereux. Personne ne prêterait l'oreille aux égarements d'un alchimiste africain. Il attribue la création du monde au rire divin. » Il leva le visage et récita avec sa prodigieuse mémoire de lecteur, qui, depuis maintenant 40 ans, se répétait à lui-même les livres lus quand il jouissait encore de sa vue. « À peine Dieu rit-il que naquirent 7 dieux qui gouvernèrent le monde. À peine il éclata de rire qu'apparut la lumière. Au second éclat de rire apparut l'eau, et au 7e jour de son rire apparut l'âme. » Folie. Y compris l'écrit qui vient après, d'un des innombrables idiots qui se mirent à gloser la Scena. Mais ce n'est pas là ce qui t'intéresse. Guillaume avait en effet passé rapidement sur ces pages, et il était arrivé au texte grec. Je vis aussitôt que les feuillets étaient d'une matière différente et plus molle, presque déchirée le premier, avec une partie de la marge rongée, parsemée de taches pâles, comme d'ordinaire le temps et l'humidité en produit sur d'autres livres. Guillaume lut les premières lignes d'abord en grec, puis en traduisant en latin et en poursuivant dans cette langue de façon que moi aussi je puisse apprendre comment débutait le livre fatal. Dans le livre premier, nous avons traité de la tragédie et de la manière dont, en suscitant pitié et peur, elle produit la purification de tels sentiments. Comme nous l'avions promis, nous traitons maintenant de la comédie, mais aussi de la satire et du mime, et de la manière dont, en suscitant le plaisir du ridicule, elle parvient à la purification de cette passion. De quelle insigne considération est digne une telle passion ? Nous l'avons déjà dit dans le livre sur l'âme, dans la mesure où, seul d'entre tous les animaux, l'homme est capable de rire. Nous définirons donc de quel genre d'action la comédie est imitation, après quoi nous examinerons les manières dont la comédie suscite le rire, et ses manières sont les faits et l'élocution. Nous montrerons comment le ridicule des faits naît de l'assimilation du meilleur au pire et vice-versa, de la surprise par la ruse, de l'impossible et de la violation des lois de nature, de l'insignifiant et de l'inconséquent, de l'abaissement des personnages, de l'usage des pantomimes bouffonnes et vulgaires, de la discordance, du choix des choses les moins dignes. Nous montrerons ensuite comment le ridicule de l'élocution naît des équivoques entre des mots semblables pour des choses différentes et différents pour des choses semblables. De la logorrhée et de la répétition, des jeux de mots, des diminutifs, des erreurs de prononciation et des barbarismes. Guillaume traduisait avec difficulté, cherchant les mots justes, s'arrêtant par moments. Tout en traduisant, il souriait, comme s'il reconnaissait des choses qu'il s'attendait à trouver. Il lut à voix haute la première page, puis il cessa comme s'il n'était pas intéressé à en savoir davantage, et il feuilleta en hâte les pages suivantes. Mais après quelques feuillets, il rencontra une résistance, car sur la marge latérale supérieure et tout le long de la tranche, les feuillets étaient unis les uns aux autres comme il arrive lorsque, une fois humidifié et détérioré, la matière du papier forme une sorte de gluten poisseux. Jorge se rendit compte que le froissement des feuillets tournés avait cessé, et il exhorta Guillaume. « Allons, lis, feuillette-le, il est à toi, tu l'as bien mérité !» Guillaume rit. Il paraissait plutôt amusé.
« Alors, ce n'est pas vrai que tu me crois aussi subtil que ça. Jorge, tu ne le vois pas, mais j'ai des gants. Avec les doigts empêtrés de la sorte, je ne parviens pas à détacher les feuillets. Je devrais m'exécuter les mains nues, m'humecter les doigts avec ma langue, comme il m'est arrivé de faire ce matin en lisant dans le scriptorium. » Alors, soudain, ce mystère aussi s'est éclairci pour moi. Et je devrais continuer à tourner ainsi les feuillets tant qu'une bonne dose de poison ne serait pas passée dans ma bouche. Je parle du poison que toi, un jour, il y a longtemps de cela, tu as dérobé dans le laboratoire de Séverin. Peut-être alors déjà préoccupé pour avoir entendu quelqu'un dans le scriptorium manifester certaines curiosités, soit à propos du Finis Africae, soit au sujet du livre perdu d'Aristote, soit pour l'un et l'autre à la fois. Je crois que tu as gardé longtemps la fiole par-devers toi, te réservant d'en faire usage quand tu sentirais un danger. Et tu l'as senti il y a quelques jours, lorsque d'un côté Vénantius parvint trop près du thème de ce livre, et que de l'autre Béranger, par légèreté, par gloriole, pour impressionner Adelme, se révéla moins secret que tu ne l'espérais. Alors tu es venu ici, et tu as préparé ton piège. Juste à temps. Car peu de nuits après, Vénantius ouvrit le miroir, déroba le livre, le parcourut avec anxiété, avec une voracité quasi physique. Il ne tarda pas à se sentir mal et courut chercher de l'aide aux cuisines où il mourut. Je me trompe ?
Non, continue.
Le reste est simple. Béranger trouve le corps de Vénantius dans les cuisines. Il craint qu'il n'en découle une enquête, car au fond, Vénantius était venu de nuit dans l'édifice à la suite de sa première révélation à Adelme. Il ne sait que faire, charge le corps sur ses épaules et le jette dans la jarre de sang, pensant que tout le monde serait convaincu qu'il s'était noyé.
« Et toi, comment sais-tu qu'il en alla ainsi ?»«
Tu le sais, toi aussi. J'ai vu comment tu as réagi quand on a découvert un linge souillé de sang chez Béranger. Avec ce linge, l'étourdi s'était nettoyé les mains après avoir mis Vénantius dans le sang. Mais comme il avait disparu... Béranger ne pouvait qu'avoir disparu avec le livre qui excitait maintenant sa propre curiosité. Et toi, tu t'attendais qu'on le retrouvât quelque part, non point ensanglanté, mais bien empoisonné. Le reste est clair. Séverin retrouve le livre, car Béranger est allé d'abord dans l'hôpital pour le lire à l'abri des regards indiscrets. Malaki tue Séverin à ton instigation, et il meurt à son tour quand il revient ici pour savoir ce qu'il y avait de tellement interdit dans l'objet qui l'avait fait devenir un assassin. Voilà que nous avons une explication pour tous les cadavres. Quel idiot.
Qui ?
Moi. À cause d'une phrase d'Alinardo, je m'étais convaincu que la série de crimes suivait le rythme des sept trompettes de l'Apocalypse. La grêle pour Adelme, et il s'agissait d'un suicide, le sang pour Vénantius, et ça avait été une idée bizarre de Béranger, l'eau pour Béranger lui-même, et ça avait été un cas fortuit, la troisième partie du ciel pour Séverin, et Malaki avait frappé avec la sphère armillaire parce que c'était la seule chose qu'il avait trouvée sous la main. Enfin les scorpions pour Malaki. Pourquoi as-tu dit que le livre avait la force de 1000 scorpions ?
À cause de toi ? Alinardo m'avait communiqué son idée. Puis j'avais entendu dire par quelqu'un que toi aussi tu l'avais trouvée persuasive. Alors, j'ai acquis la conviction qu'un plan divin réglait ces disparitions dont je n'étais pas responsable. Et j'annonçais à Malaki que s'il ne s'était pas gardé d'être curieux, il aurait péri selon le même plan divin, comme de fait cela s'est avéré.